Bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le pasteur Kabongo Baya, qui est le président, attendez, j'enlève le masque, peut-être ça sera mieux, qui est le président du mouvement du christianisme social. Donc il va faire la prédication, je ferai la liturgie. Et nous allons faire une liturgie plus classique, puisque nous allons suivre la liturgie de la page 20. Donc de vos recueils de liturgie. Bienvenue à vous tous, quel que soit votre cheminement spirituel, philosophique. Bienvenue à vous tous, vous êtes ici chez vous. Éternel, tu es la source et l'estuaire, tu es l'aube et l'aube à nouveau, la lettre première et dernière, et tu es la cire et le sceau. Tu es le don et la demande, tu es la joie et le tourment, tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'achèvement. Tu es le ciel sur nos désordres et la terre où nous nous aimons. L'univers contient tous les astres et ton nom contient tous nos noms. Je vous invite donc à invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu, par le petit spontané. Nous allons écouter la volonté de Dieu. Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu nous donne la force de faire. Ne proférez plus de mensonges. Que chacun dise la vérité à son prochain. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il s'adonne à la solidarité en secourant les nécessiteux. Ne colportez nul mauvais propos, mais proclamez toute bonne parole capable d'édifier, de réjouir et de consoler ceux qui l'entendent. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage doivent être chassés de vos vies. Au contraire, soyez bons et compatissants, les uns pour les autres. Pardonnez-vous mutuellement, puisque Dieu, en Jésus-Christ, vous a déjà pardonné. Le psaume, le spontané suivant, le cantique psaume, on va chanter le psaume 107, voilà. Psaume de louange, donc ça va très bien. Le psaume 107. Les strophes ? Il y a 8 strophes, ah oui, ça fait beaucoup. Mais on peut chanter, hein. Il y a le couvre-feu, oui. Donc, on chante les 5 premières, voilà, donc ça fait 5 premières. vous prie de vous asseoir. Nous annonçons, nous commençons la prière. Alors c'est une prière évidemment intérieure pour nos manques, nos imperfections. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons nos limites, quelquefois nos lâchetés. Éternel, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ses jours et ses nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence, il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis, il y en a un immense, et c'est moi-même. Je ne me méprise pas, je ne te demande pas de m'abaisser, je te demande, Dieu que je peux nommer Père ou Mère aussi, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Maintenant, c'est le moment où Dieu proclame son amour, sa grâce, et je vous prie de vous lever. La grâce et la paix nous vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Réjouissons-nous. Car Dieu n'est pas un inconnu dominateur, éternel indifférent au monde qu'il a créé. Au contraire, il s'est fait connaître, il y fait retentir sa parole. Réjouissons-nous, car cette parole n'est pas un immuable message, mais elle est un homme de Palestine venu il y a 2000 ans. Réjouissons-nous, car cet homme n'est pas un pieux souvenir à embaumer et à vénérer. Il est mort et ressuscité, et aujourd'hui, il est vivant. Amen. C'est le moment de confesser notre foi. Je vous prie d'écouter cette confession de foi. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Jésus-Christ, ou plutôt Jésus le Christ, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Nous croyons que tu es l'image et la présence du Dieu vivant et mystérieux qui a fait l'univers et le soutien. Nous croyons que tu es mort, crucifié par la faute des humains, et que tu es proche de tous les suppliciés, que tu es ressuscité, que tu vis pour toujours, présent chaque jour dans notre existence. Pour toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un Père plein d'amour. Par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit sur la terre, sans tenir compte de nos distinctions, assemble les croyants, éclaire l'Évangile, nous annonce le renouvellement du monde et la vie éternelle, dont la justice et la joie de Dieu. Jésus-Christ, nous espérons en toi. Amen. Des lectures bibliques.
Frères et sœurs, chers amis, je vous salue et je vous dis aussi ma grande joie de pouvoir partager avec vous ce culte où vos responsables, si je puis dire, à commencer par Jean-Paul et aussi ma collègue et mon ami Dominique Hernandez. Ont souhaité que je puisse aujourd'hui partager avec vous ces quelques réflexions sur des textes bibliques, une manière de rappeler que nous sommes fondés pour notre vie et pour ce que nous sommes en cette parole. Mais je vais peut-être vous déconcerter ce matin. En réalité, je ne viens pas d'emblée vous parler de la paix. Je vais vous parler de la peur. Ce n'est pas ce qu'on apprend aux étudiants quand ils font leurs exercices de prédication. On dit qu'il faut dans un premier temps aborder les choses positivement et terminer aussi avec la note positive. Là, moi, je veux commencer avec quelque chose qui est en nous et voir ce que nous pouvons en faire devant Dieu. Un premier texte, un texte archi connu, dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, puis du verset 21 jusqu'au verset 22. Exode 14, 15 à 16, et plus loin, 21 à 22. Le Seigneur dit à Moïse, Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux Israélites et qu'ils partent. Toi, élève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer sur la terre ferme. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent. Ce vent était de l'est. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme. Et puis, dans les évangiles, l'évangile de Matthieu au chapitre 14, du verset 22 au verset 27. Matthieu 14, 22 à 27. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau, la barque, et à le précéder de l'autre côté de la rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par des vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux, c'est Jésus, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : C'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : Courage. Courage, c'est moi. N'ayez pas peur. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous par ta vérité. Amen. Alors, chers amis, parler de la peur à la place, par exemple, de la paix, voire même de confiance, peut paraître, je le redis, assez contradictoire, parce que nous ne sommes pas appelés à témoigner de cela, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui nous fait trembler, de tout ce qui nous laisse sans moyens. Nous sommes appelés à vivre debout et à pouvoir, malgré tout, dans toutes les circonstances, vivre comme des témoins du Dieu qui vient. Mais nous ne sommes que des hommes et des femmes avec nos fragilités personnelles. Nous ne sommes que des hommes et des femmes vivant des sociétés et le monde balafrés par tant de problèmes. Et vous êtes d'accord avec moi qu'en ce moment, nous sommes bien servis. C'est peut-être aussi cela qui a fait que je pense spontanément à ce texte pour qu'en insistant sur la peur, je vous aide aussi à voir comment il est possible d'entrer dans quelque chose qui est comme le dépassement de la peur par l'accueil de l'impossible, mais qui est en réalité le possible de Dieu. Le texte qui nous parle de cette chose qui arrive sur la mer, la rencontre de Jésus avec ses disciples dans une situation complètement surréaliste, une situation apocalyptique presque. Ce texte, je le veux dans un premier temps comme le portail de ce que j'ai envie de vous dire sur le texte d'Exode. Mais ce texte est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous regardez la partie qui précède le récit que je viens de lire, vous verrez que Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui était en captivité, qui était incarcéré par Hérode, venait d'être décapité. Jean-Baptiste est donc mort et Jésus est comme dans la continuité, une succession obligée de ce que pouvait ou ce que faisait Jean-Baptiste. Et le premier signe qu'il pose après cet événement affreux, porteur de tout ce qui est découragement, porteur de tout ce qui est désorientation, le premier signe qu'il pose est celui d'offrir du pain aux multitudes. Mais peut-être ce que vous ne savez pas, que vous avez oublié, le premier à avoir fait ce geste de donner du pain aux autres, ce n'est pas Jésus, c'est Élisée. Et qui est Élisée qui a donné du pain à plus de 100 personnes, sinon le successeur, presque présenté dans la Bible comme l'avatar d'Élie, et qui dit Élie, dit aussi un autre nom de Jean-Baptiste, parce qu'il était présenté comme successeur. Et d'ailleurs, entre Élie et Élisée, Jésus et Jean-Baptiste, il y a un emboîtement de dédoublement d'identité, identité symbolique bien sûr, mais aussi une manière d'imaginer les événements qui doivent venir et les événements qui se déroulent à la lumière de cette vision de Dieu comme souverain de l'histoire et qui fait que ceux qui sont témoins de son règne, ceux qui sont témoins de la proximité de sa fidélité, restent aussi témoins de ce que Dieu change malgré les situations difficiles et tout ce qui est comme ombre sur la marche de l'histoire. Donc Élie et Élisée, Élisée, le geste du pain donné, Jean-Baptiste et Jésus, et après la disparition de Jean-Baptiste, de manière tragique, Jésus qui pose un geste énorme en offrant du pain à des multitudes. C'est le soir. Cet acte de distribution de pain multiplié, cet événement du pain à provision a eu lieu. Et ces multitudes qui vivent comme en déshérence, abandonnées à eux-mêmes, sont là. Bien sûr, avec tout ce qu'ils ont reçu et qui attestent qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Bien sûr, avec ce signe du pain donné qui est encore là, présent dans les mémoires et les vies de ces personnes, mais aussi, et peut-être même d'abord, la brûlure d'une parole, d'un enseignement qui ouvre la perspective de l'histoire et des trajectoires d'histoire personnelle, et donc l'attachement à Jésus qui leur parle de cette manière. Une autre manière de distribuer un pain, et cette fois-ci le pain de la parole. Jésus doit quitter cela pour se retirer et prier seul. La première solitude, la première rencontre de solitude est celle de Jésus sur un lieu à l'écart où il parle et écoute son Père. vient la deuxième solitude. C'est celle qui est proposée par Jésus à ses disciples, à ses amis, de traverser seul le lac, présenté ici comme mer, avec plutôt l'échelle géographique et les dimensions que nous connaissons pour cette région du monde, seul sur ce lac. Et ce qui devait arriver, arriva. C'est la tempête, une sorte de tsunami sur le lac. Et la barque est ballottée dans tous les sens. Et ils sont seuls, comme ce foule, privé de Jean-Baptiste, et qui ne savent plus où se trouve Jésus. Et ils sont seuls. Ils affrontent la peur et le désarroi seul. Et quand quelqu'un apparaît à quelques encablures d'eux, leur imagination produit, c'est le sens exact du texte grec, leur imagination produit des images, un peu comme nous parlons de fantasmes, c'est du même ordre ici étymologiquement, des images qui ne sont pas tout à fait accordés à la réalité, mais qui ont plus de force même que la réalité. C'est un fantôme. À la peur extérieure objective, vient se doubler, se redoubler la peur intérieure, tout à fait subjective, et les disciples ne savent pas à quel diable donner leur confiance, ou plutôt leur désarroi. Il faut que Jésus intervienne pour se faire connaître. Et d'abord par ce mot qui vient narguer la peur. Courage, c'est moi. Et qui se termine par « n'ayez pas peur ». Ici, je passe à la deuxième partie de ce que je souhaite vous dire. C'est la façon dont les enfants d'Israël ont eu le courage de traverser la mer Rouge avec ce qui est décrit d'une manière un peu mythologique par le rédacteur ou le narrateur. La mer qui laisse le chemin sur la promesse de Dieu et le geste audacieux de Moïse, comme s'il tenait une sorte d'épée en coupant dans quelque chose, normalement ne se coupe pas de cette façon. Et les deux parties des eaux sont tenues, l'une à distance de l'autre, et les enfants d'Israël peuvent traverser à pied sec. Nous connaissons cette histoire parce que nous l'avons lue plusieurs fois dans les Écritures, mais nous la connaissons aussi par toutes sortes de fictions, et je pense notamment aux 10 commandements et le geste de Ben-Hur. Par contre, ce qui me semble toujours être problématique à nous, c'est qu'on y voit un miracle. Dieu fait un miracle pour son peuple, afin que sa promesse s'accomplisse. Mais demandons-nous, qui en l'occurrence fait un miracle? C'est lui qui fait le miracle sur le peuple. Le peuple qui va traverser, parce que le peuple aurait pu se dire, en plein milieu, les eaux vont se rassembler et nous resterons là. Les Israélites prennent le courage en prenant Dieu au mot. Et l'exhortation de Moïse, « Vous pouvez passer, et je suis devant. » Et il passe. Il y a quelque chose de très simple. Peut-être ma phrase va vous paraître, elle n'est d'ailleurs même pas de moi, c'est d'un auteur français que j'aime beaucoup, spécialiste dans les sciences de l'éducation, Philippe Mérieux, pour ne pas le nommer, pour apprendre à faire quelque chose, il faut faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, précisément pour apprendre à le faire. Apprendre, c'est faire quelque chose que nous ne savons pas faire pour apprendre à le faire. C'est cela, apprendre. C'est exactement comme la première fois où vous êtes monté sur un vélo. Vous ne saviez pas comment ça se passe. On vous a dit, on fait ça, on fait ça. Mais il fallait le courage de monter et peut-être même de tomber. Mais ce qui est certain, c'est ce qui nous arrive à 2 ans, quand nous avons le courage à cet âge-là de mettre un pied avant l'autre et de tituber, de tomber, et l'entourage qui nous dit « Redresse-toi, viens, tu peux continuer. » Apprendre à faire quelque chose que l'on ne sait pas faire pour précisément apprendre à le faire. C'est ça, traverser. C'est ça, cette traversée-là, et qui devient un miracle. Un miracle parce que l'impossible imaginé devient possible dans l'acte réel de cette traversée. Regardez, regardez ce qui se passe en nous. Nous n'osons même pas, en famille ou en couple, nous avouer nos peurs, tellement tout cela est sombre. Nous ne regardons pas quelquefois les informations, tellement la répétition de toutes ces choses sombres nous paraît aujourd'hui comme une forme de propagande qui nous ratatine au lieu de nous donner du courage, au lieu de nous redresser, au lieu de nous donner une sorte de colonne vertébrale pour pouvoir toujours affirmer et vivre ce possible qui est devant nous. Nous n'avons pas à vivre courbés. Quelque chose d'autre est au-delà de ce que nous voyons. Courage. C'est moi. N'ayez pas peur. À la pandémie, voilà le terrorisme sanglant et sanguinaire qui vient se surajouter. Et chacun de nous, chacune de nous se demande, le prochain tour, c'est pour qui ? Aussi bien par rapport à la crise sanitaire que par rapport à l'insécurité, comme cela aujourd'hui de plus en plus inculturé dans notre société, dans notre vivre ensemble, mais aussi sur des questions fondamentales du devenir commun. Et nous, appelés par une promesse qui n'est pas notre promesse, qui n'est pas une manière de nous rassurer comme si nous étions des adeptes du docteur Coué. Non, par une parole qui nous vient d'ailleurs, qui n'est pas notre parole, qui nous dit simplement « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pour nous et pour tout notre entourage, pour nous, pour notre pays et pour le monde. La plus grande intelligence, c'est cette indocilité par rapport à la peur. La peur, bien sûr, est naturelle. Nous sommes des êtres de finitude. Et ça passe aussi par là. Mais je le redis, nous sommes appelés à tenter l'impossible pour pouvoir accueillir le possible de Dieu par sa promesse. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Ce n'est même pas le mal au sens général et abstrait du terme. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et quand il est dit « n'ayez pas peur », c'est pour faire de nous des missionnaires et des apôtres, de quelque chose qui ouvre les esprits, qui ouvre les cœurs, qui permet qu'on puisse sortir, qui permet qu'on puisse vivre droit, qu'on puisse vivre debout, pas ratatiner et par terre. C'est en cela que se joue la foi dont nous sommes témoins. N'ayez pas peur. Amen.
Merci beaucoup pour cette prédication, pour ce rappel que Dieu nous délivre de cette peur paralysante et nous amène à être debout pour lutter pour la justice. Notre monde en a bien besoin de la justice. Il a toujours eu besoin, d'ailleurs, à travers le temps. C'est maintenant le moment des annonces.
Bonjour à tous. Pour donc les activités qui viennent la semaine prochaine, et puis aussi d'ailleurs la suivante, le premier élément, c'est que c'est les vacances scolaires, et que donc, vous avez pu le constater dans le bulletin, la plupart des groupes de rencontres, de réunions, ne se réunissent ni cette semaine ni la suivante, et ne reprendront qu'après. Alors il y a juste une exception et j'y insiste parce que l'information qui est donnée dans le bulletin est erronée. C'est la pause spirituelle qui, contrairement à ce qui est annoncé dans l'agenda du bulletin aura bien lieu le 22, et c'est le 29 qu'elle n'aura pas lieu, parce que Dominique Hernandez est absente du 26 au 30 octobre. Donc Dominique assurera le culte du 25 et celui du 1er novembre, qui est un culte, c'est le culte de la Réformation, donc c'est un culte avec scène. Mais en revanche, donc, il n'y aura pas la pause spirituelle le 29. Et donc, c'est le 22 qu'elle aura lieu, contrairement à ce qui est dans le bulletin. Le deuxième élément, bien sûr, c'est les conséquences pour nos activités des nouvelles mesures de lutte contre la Covid. Alors, les décisions que nous avons prises, c'est qu'il n'y a aucune annulation d'activité, mais que, bien évidemment, on s'adapte aux nouvelles circonstances et notamment au couvre-feu à 21h, ce qui fait que les activités sont décalées. En général, elles auront lieu plus tôt pour pouvoir permettre à chacun d'être rentré chez lui à 21h. Alors, en outre, comme nous devons gérer tout le temps le nombre de personnes qui assistent à ces activités pour ne pas dépasser les capacités de notre salle, en fait, la réglementation qui nous est applicable n'est pas la réglementation de la fameuse règle des 6, c'est la réglementation des lieux qui accueillent des activités et qui doivent avoir une jauge en fonction de leur taille de salle de réunion. Donc quand c'est le temple, on peut quand même accueillir plusieurs dizaines de personnes. Quand c'est la salle de réunion là-haut, c'est 10, 12, pas beaucoup plus, pour que les gens puissent bien s'éloigner les uns des autres. Donc ce que nous vous demandons, c'est que ceux qui participent à des activités qui seront maintenues s'inscrivent en envoyant un mail à Dominique Hernandez 3 ou 4 jours avant, notamment parce que certaines réunions seront déplacées par Zoom et qu'il faut qu'elle envoie le lien pour que vous puissiez participer. Mais lorsque c'est ici, et notamment dans la salle du second, on a besoin de savoir à l'avance. Alors bien sûr, une personne peut venir à l'improviste, mais on a besoin de savoir si on va dépasser ou pas la jauge que permet notamment la salle du second. Il y a aussi une autre conséquence pour la fête de l'amitié. Donc je vais demander à Isabelle de venir nous expliquer comment va fonctionner la fête de l'amitié millésime 2020. Et puis ensuite, Dominique a aussi une annonce à nous faire. Donc on lui demandera de venir après.
Bonjour. Alors voilà, la fête de l'amitié ne peut pas avoir lieu comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne va pas déménager le temple. D'abord, on a besoin d'être distanciés, donc le temple et les cultes resteront là. Donc, puisque l'espace est fermé, eh bien, on va étendre la fête de l'amitié dans le temps. Et ce qu'on propose, mais on a besoin de vous pour ça, c'est de faire un comptoir qu'on mettra sans doute là-bas, c'est encore à voir, et dans lequel on proposera des plats, des gâteaux, des bonnes choses qu'on n'aura pas le plaisir de manger ensemble, ce qui est dommage, mais qui seront quand même très bons et qu'on pourra manger en pensant à la communauté, à l'amitié qui est là et qui nous lie. Voilà, ça c'est le but. Et puis on aura aussi des objets. On aura par exemple, Andréa Vautier a déjà fait plein d'artisanat, donc ça sera proposé. Et puis d'autres aussi. Et voilà, donc tout ça devrait se passer très bien, mais ça demande quand même un peu d'organisation. Parce que nous allons faire ça à partir du 15 novembre, pendant 4 dimanches. Donc le 15 novembre, le 22, le 29 et le 6 décembre. Le 6 décembre, c'est la fête de Noël avec les enfants. Et le sapin, j'espère. Le sapin, on ne va pas nous l'enlever quand même. L'idée, c'est qu'il y a des super personnes qui vont faire de la bonne cuisine et que nous, on pourra réserver des plats. Et qu'en fait, il faut qu'on s'organise pour savoir qui fait quoi et le savoir assez vite pour pouvoir le dire à tout le monde et que les uns et les autres puissent éventuellement commander. Parce que, en fait, il y a le plaisir de passer un moment ensemble ou de se croiser, parce que là, finalement, si vous commandez, eh bien, ça sera prêt. et vous aurez juste à prendre les choses et partir, et ce qui fait que ça évitera aussi les attroupements. Ah, c'est compliqué hein, cette année, mais c'est pas grave, on va quand même garder quelque chose de l'esprit, de la chaleur de la fête de l'amitié, de cette façon-là, en réinventant les choses et en le réinventant ensemble. Donc, si jamais parmi vous, j'en ai déjà parlé avec un certain nombre d'entre vous, il y a des gens qui sont disponibles soit pour tenir ce comptoir à un moment ou à un autre, un de ces dimanches, ou surtout pour apporter quelque chose qui pourra être proposé, ou pour préparer des plats à la commande, voilà, faites-vous connaître. Et en attendant, eh bien, bon dimanche.
Bonjour à tous et à toutes. Oui, je vais en rajouter un tout petit peu à propos de ces changements, ces aménagements de temps, parce que avant la fête de l'amitié, il y aura une distribution de paniers repas aux personnes démunies. Vous savez qu'on ne peut pas accueillir les tables du CASP comme on les accueillait avant. Et on a décidé, comme plusieurs autres paroisses, de confectionner un petit panier repas. Alors, j'ai jusqu'à présent 2 bénévoles. Donc, on a besoin de bénévoles pour mettre en sac la veille du 1er novembre, c'est-à-dire le samedi 31 après-midi. On a besoin de quelques cuisiniers, cuisinières, parce que pour l'instant, je pense qu'on n'est pas tout à fait assez. Il faut confectionner une douzaine de cakes salés. Et le reste, je crois qu'on s'en est un peu occupé. Donc, des cuisiniers, des cuisinières, un peu plus de bénévoles pour mettre en sac, et puis peut-être pour assumer la distribution qui se fera seulement pour 30 personnes, donc à peu près 8 personnes toutes les demi-heures. Donc des créneaux d'horaire de 11h30, et je réalise que c'est le culte de la réformation qui sera peut-être un peu plus long, sûrement même. Donc il va y avoir un petit timing un peu compliqué. Mais enfin bon, 11h30 jusqu'à 13h... 11h30, 12h... jusqu'à 13h, voilà, 13h30. Je vous remercie, parlez-en autour de vous et merci aux 2 bénévoles qui se sont déjà manifestés.
Merci. Eh bien, maintenant, en tant que trésorier, je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer moi-même le temps liturgique que je préfère, c'est-à-dire celui de l'offrande. Donc, voilà, c'est le temps de l'offrande et je suppose qu'on chante... Ah, vous avez... Je vous en prie.
En fait, en reprenant la parole ici... J'aurais voulu que ce soit Laurent Gagnebin qui parle à ma place. Sur le fronton de votre église, je crois, il est marqué « Ici, on apprend à l'humanité ». C'est ça ? Et de ce que je viens d'entendre, à la fois concernant l'amitié partagée à l'interne, que la possibilité d'accueillir des personnes qui sont un peu abandonnées à elles-mêmes pour un geste de solidarité et de partage, montre bien que vous êtes une église qui est sensible à cela. J'ai été présenté comme président du christianisme social. En fait, c'est pour à la fois nous interroger sur la signification de cet effort de partage des moyens de solidarité. Moyens de solidarité. Les moyens de solidarité. Ça ne va pas de soi. Vous êtes bien placé pour le savoir, ici ou au cœur de Paris. Et puis tout ce que vous avez dit avec cette fête de l'amitié et l'attention à l'autre. Moyen de solidarité. Parce que dans les moyens de solidarité, il peut y avoir aussi des pièges. La manière de donner et de ce qu'on attend de l'autre et qui n'est pas toujours de l'ordre du don peut compliquer la relation dans ce partage de moyens de solidarité, et c'est même déjà présent dans la Bible, les Actes des Apôtres notamment. Mais il y a une autre dimension avec ce qu'on essaie de porter, de poursuivre au niveau de ce mouvement du christianisme social, c'est la réflexion sur les raisons de cette solidarité. Tout à l'heure, j'insistais sur comment les peurs, voire même, je n'ai pas beaucoup dit ça, mais comment l'angoisse nous détruit de l'intérieur. Eh bien, cela aussi peut corrompre les raisons, les justifications qu'on peut trouver à ce que nous faisons. Ça signifie que les moyens de solidarité sont certes une chose, un enjeu réel, mais vraiment réel. Mais ça signifie aussi que la compréhension partagée des raisons de solidarité, là aussi, il y a un autre enjeu. Donc, tenir ensemble cette réflexion à la fois sur le plan pratique et sur le plan du questionnement qui est toujours ouvert, c'est un peu ce que nous essayons de porter par des groupes dans nos communautés, des groupes ouverts à d'autres associations et mouvances dans la société civile, par l'appropriation de ceux qui nous ont précédés sur cette route, sur ce cheminement, et aussi par des questions inédites qui se posent à nous aujourd'hui et qui sont des questions à empoigner ensemble. Ce serait très bien que votre projet de vie de l'Église ici, au foyer de l'âme, continue à être dans cet axe d'une recherche d'un christianisme intégral, comme disait quelqu'un que tu aimes beaucoup, un christianisme qui englobe tout, parce qu'un christianisme tout court risque d'être un christianisme trop court.
Alors, pour faire plaisir à notre trésorier, mais aussi pour faire plaisir à notre communauté, et aussi parce que c'est une offrande à Dieu, et non pas une simple collecte, c'est donc le moment de l'offrande, et nous chantons, puisque c'est l'habitude ici, au foyer de l'âme, le cantique 258. C'est maintenant un temps de prière, d'intercession. Il est vrai que dans ce temps de prière, nous pouvons penser à la famille de Samuel Paty, ce professeur d'histoire de géographie qui a été lâchement assassiné alors qu'il revenait de son collège. Chez lui, qui a été lâchement assassiné, tout simplement parce que il faisait son métier de professeur en éducation civique, former les élèves au respect de la laïcité, former les élèves à l'esprit critique, former les élèves à avoir un recul, même par rapport à leurs croyances, à leur philosophie, non pas pour refuser celle-ci, mais justement pour ouvrir aux autres et pour dépasser les sectarismes. Nous pensons donc à sa famille, et nous pouvons penser d'ailleurs à travers l'humanité, à tous ceux qui souffrent, qui sont persécutés pour la justice, à tous ceux qui ont élevé la voix et qu'on veut faire taire. On pourrait égrener de multiples pays qui, à cause de leur régime autoritaire, brisent les gens ou brisent les peuples. Voilà en Europe la Biélorussie. On a l'Iran, On a le régime syrien qu'il ne faut jamais oublier, parce que nous, nous voyons Daesh, qui est terrible, mais le régime syrien qui a fait torturer à mort peut-être 80 000 personnes dans les prisons, et qui, au début du mouvement du printemps arabe, a fait tirer sur les foules, des foules pacifiques, ou des journalistes, des historiens, dans des pays que pourtant nous connaissons bien et que nous croyons peut-être pas si mal, mais qui sont aussi en dérive autoritaire. Je pense au Maroc. Je peux penser aussi, mais la dérive autoritaire, elle est ancienne, à l'Algérie. On brise l'espérance des gens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs convictions. Dieu nous demande non seulement d'être debout, mais de lever l'humanité et de lutter pour la justice. Et quand Philippe parlait, ou pour Laurent, de christianisme intégral, c'est ça le christianisme intégral. C'est que si nous prêchons un Dieu d'amour, nous devons prêcher aussi un Dieu de justice. C'est ça aussi tout le message des prophètes du Premier Testament et le message de l'Évangile. Il ne peut pas avoir de christianisme sans justice. Autrement, c'est un christianisme qui s'évade dans le ciel, mais nous, nous sommes sur terre, au milieu des humains. Nous prions. Père, Dieu, ta parole nous a redit son amour pour ce monde. Nous te prions pour la paix. Une paix fondée sur l'amour en Christ, que l'inimité et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection, l'espérance qui est en celui-là seul qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous, le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour Dieu. Le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Maintenant, nous allons passer à la prière que tous les chrétiens disent. Alors, vous savez que au foyer de l'âme, nous avons comme tradition de laisser libre les gens, de dire ou de chuchoter, évidemment, ou de ne pas dire, d'intérioriser. Les gens sont libres. Nous sommes libres par rapport à nos sensibilités. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est maintenant le temps de la bénédiction. Je vous demande de vous lever. Dieu, notre Père, Dieu, notre Mère éternelle, celles et ceux qui se tournent vers toi trouvent la paix. Celles et ceux qui demeurent en toi vivent pour l'éternité. Accorde-nous ton aide dans toutes nos tâches. Sois notre guide dans nos désarrois, notre protection dans tous les dangers, notre consolation dans toutes nos peines. Par Jésus le Christ. Amen. Maintenant, nous pouvons chanter le dernier spontané, page 25. Bonne journée à vous tous.